RCF.
Alors, Monseigneur, on va tout au cours de cette émission évoquer avec vous des sujets qui ont été ceux de l'été, et en particulier les Journées mondiales pour la jeunesse. Regardez un peu comment cette année pastorale s'annonce. On peut dire que là aussi, vous allez sur le terrain au cours de cette année prochaine, dans les espaces missionnaires, vous allez relancer un petit peu tout ça.
Mais l'évêque n'est pas évêque dans son bureau, il est évêque avec le peuple qui lui est confié.
Alors, il est vrai que à la foire de Châlons-en-Champagne, il y a un certain nombre de rendez-vous. Et aujourd'hui, le souvenir français est à l'honneur. Monsieur Serge Barcellini, qui est contrôleur général des armées, mais aussi président national du souvenir français. Il est accompagné de Philippe Louge, qu'on a bien connu, puisqu'il était proviseur d'un lycée à Reims, qu'il est parti à Mayotte et qu'il est revenu, mais qu'il est votre correspondant local. Serge Barcellini, le souvenir français, c'est quoi ?
Le souvenir français, c'est une grande association mémorielle qui a été créée en 1887 et qui a pour but de sauvegarder la mémoire combattante de la France 19e, 20e et 21e siècle. Sauvegarder la mémoire combattante de la France pour faire partager une mémoire commune au plus grand nombre des citoyens de ce pays. C'est-à-dire, partager une mémoire, c'est faire nation. C'est ce que nous défendons, n'est-ce pas, au souvenir français.
Alors, Serge Barcellini, vous avez fait cette belle présentation. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont en voiture, le souvenir, on pense à regarder dans le rétroviseur. Mais la mémoire, ça fait partie aussi de l'avenir. Car on construit son avenir en regardant la tradition et en s'en inspirant. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un du passé.
Absolument. Souvenir, le mot que je n'ai pas voulu changer dans le titre du souvenir français, c'est vrai qu'il fait passéiste. Mémoire est un terme beaucoup plus novateur qui ouvre sur le présent. La mémoire, c'est le présent et l'avenir, contrairement à ce qu'on pense. Partager la mémoire, c'est créer l'avenir. Le souvenir français est créateur de l'avenir, au même titre que l'Église catholique. Nous sommes ouverts sur la société. Nous ne sommes pas en train de regarder le rétroviseur en permanence. Nous croyons bien au contraire que partager une mémoire, c'est ouvrir vers la société de tous les jours et la société.
D'où votre présence sur la foire pour vous faire connaître, pour vous faire connaître aux jeunes aussi.
Absolument.
Parce que c'est les jeunes qui doivent savoir qu'il y a des gens qui se sont battus, il y a eu des conflits et ils ont été engagés dans des choses parfois qui les dépassaient, mais ils se sont engagés pour leur patrie, pour leur pays. Ça aussi, au moment de la rentrée scolaire où on parle de valeurs et d'histoire, c'est peut-être l'occasion de remettre ça sur le tapis.
Le souvenir français est le principal partenaire de l'éducation nationale. Personne ne le sait en France, donc je n'arrête pas de le dire. En tout cas, nous sommes le principal partenaire financier pour tous les voyages scolaires, pour les opérations de dépôt de drapeaux dans les établissements scolaires, privés ou publics, que ça soit très clair. Nous croyons, nous, qu'il n'y a qu'une seule jeunesse en France et que cette globalité de la jeunesse, elle doit être en permanence rencontrée pour comprendre et partager notre histoire. Si par malheur, les jeunes ne partagent pas la même histoire, nous aurons un véritable problème dans le pays.
Cher Jean-Pierre, bonsoir Monseigneur, très heureux
bonsoir,
de partager cette table avec vous. Et puis, Serge Barcellini, que je connais depuis des décennies et qui est effectivement remarquablement
N'exagérez pas, Christian Brien, des décennies, vous n'en avez pas tant que ça quand même. Vous êtes jeune.
Mais oui, nous sommes simplement tous les quatre jeunes depuis plus longtemps que d'autres.
C'est vrai. Alors, la présence à la foire du président du conseil départemental, j'allais dire, ça va de soi.
Oui, évidemment, le département est présent tous les ans. Et cette année, je vous entends parler de l'avenir, et je n'en suis pas étonné. Nous avons choisi d'être tournés vers la jeunesse, et notamment avec la présence de notre conseil départemental des jeunes pour sa deuxième session. Ce sont des jeunes qui nous ont montré combien ils pouvaient avoir des idées novatrices que nous n'aurions pas et qui, d'évidence, sont à mettre en œuvre pour préparer la société de demain. Est-ce que je peux me permettre, droit dans les yeux, mes deux amis, si vous permettez, Monseigneur.
Avec joie.
On a à Dormant un mémorial, édifice consacré, où on célèbre à la fois des offices religieux. Monseigneur, vous le connaissez, je vous y ai invité, vous êtes venu.
Et je suis venu.
Tout à fait. et où on célèbre le devoir de mémoire. Voilà.
Vous aviez un grade dans l'armée, vous, au fond, ou vous avez simplement été matelot, poussé un petit peu le
J'ai fait une carrière complète. J'ai fini capitaine de vaisseau, c'est-à-dire colonel.
Voilà. Ah, vous étiez colonel?
J'ai fini.
Ah, mais je ne savais pas. Vous voyez, monseigneur, monsieur Louge était colonel tout en étant dans l'enseignement ensuite.
Oui, après, voilà, c'est dans la deuxième partie de carrière, finalement, sur une dizaine d'années, que je suis devenu proviseur, donc enfin personnel de direction de l'éducation nationale.
Et on vous comprend que vous êtes aujourd'hui au souvenir français. Serge Marcellini.
J'allais vous dire.
C'est une logique.
C'est une logique. Dans tous les Français d'aujourd'hui, il y a une troisième carrière qui se cache. Voilà.
Mais pour vous aussi, peut-être, Christian Bruyen, il y a d'autres carrières qui prolongent. Enfin, ça, c'est autre chose. Nous sommes sur une radio où on n'évoque pas la politique en permanence.
Je vous attends tous au grand séminaire, alors.
Eh ben, alors là, écoutez, Alexis Claudresse, qui est avec nous, je suis en train de monopoliser un peu la parole, et comme il est sur les réseaux sociaux et que c'est très important. Oui. Il nous a demandé dans quelques instants, on va continuer l'interview aussi avec Christian Bruyen et Mgr Touvet. On voudrait une photo de vous trois. Et comme Christian Bruyen n'est pas tout à fait dans le cadre, on va essayer de faire cette photo en continuant cette émission. Restez là, Monseigneur. Et puis Serge Barcellini, vous restez encore là. Non, vous restez encore là. Et puis ça va permettre de faire une photo qu'on va mettre, comme le disait Christopher et le disait également Alexis, de faire une photo pour les réseaux sociaux. C'est très important, cette présence. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'Église, elle essaye, et vous-même, d'ailleurs, Monseigneur, d'être présent sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, nous y sommes. Parce qu'il nous faut utiliser les langages d'aujourd'hui, les codes d'aujourd'hui, le vocabulaire, pour transmettre le message qui est le nôtre, celui de l'Évangile, celui de la foi chrétienne, pour donner du sens à la vie. Et la jeune génération, nos contemporains, ne parle pas comme on parlait au XVIIIe siècle. Et donc c'est avec les outils d'aujourd'hui, le langage d'aujourd'hui, que nous sommes heureux de communiquer avec tous.
Christian Bruyen, justement, quand vous êtes dans la Marne et que vous aimez ce département auquel vous êtes particulièrement attaché, que vous rencontrez des personnes, vous aimez ce contact direct. Et c'est un peu, alors on ne va pas faire de parallèle, il ne va pas entrer au séminaire, Christian Bruyen, maintenant, mais tout de même, les espaces missionnaires, les contacts avec les personnes, c'est quand même très important pour vous.
Ah oui, mais chacun sait que je suis là tous les jours. Et certains me disent, ça doit être fatigant. Pas du tout. J'aime ça. Voilà. Mais quand je note les derniers échanges que l'on a pu avoir, on a parlé beaucoup de la jeunesse, mais en fait, voilà, on avait notre ami le colonel, on est dans l'intergénérationnel. Le lien intergénérationnel, qu'est-ce que c'est important dans notre société, parfois un peu abîmée ou parfois en recherche de sens, qu'est-ce que c'est important d'être sur l'intergénérationnel? Et c'est ce qu'on fait, par exemple, là, nous, en ayant inauguré un bus France Service. Pour aller vers cet intergénérationnel, et notamment les personnes un peu plus âgées, un peu plus isolées, dans les territoires un peu plus reculés, les territoires ruraux. Donc voilà, on est sur ce lien, mais vous êtes dans la même démarche, créer du lien, parce que on sent bien qu'il y a une sorte de montée de l'individualisme dans nos sociétés, et on a tous ce même combat à mener, et rien n'est perdu. Il faut rester optimiste de ce point de vue. Moi, je crois beaucoup en la jeunesse.
Le souvenir français, vous y travaillez, Serge Barcellini, parce que je sais que vous avez un train dans quelques minutes.
J'ai un train, mais c'est pas grave. Mais je ne le raterai pas. Hein. Écoutez, nous avons fait ensemble une initiative qui est tout à fait tournée vers la jeunesse. Nous pensons, nous, que lorsque vous avez une tombe de mort pour la France, moi je crois beaucoup au respect des tombes, et je crois beaucoup que les tombes, elles nous parlent. C'est-à-dire que celui qui est dans la tombe, il a eu un destin individuel, mais ce destin individuel, s'il est mort pour la France, rejoint le destin collectif de la nation. Et nous estimons, nous, que nous devons être capables de visiter des cimetières avec son téléphone portable et être capables de découvrir pour chaque combattant le destin individuel du combattant. Nous l'avons fait ensemble dans un cimetière.
Tout à fait. À Cormontreuil.
À Cormontreuil. Je n'ai pas dit qu'on le faisait partout, c'est un travail titanesque, parce qu'il faut écrire la généalogie de chaque combattant, l'histoire de son combattant. Mais si nous sommes capables de faire ça, à la fois, nous sommes capables de montrer aux jeunes qu'une tombe n'est pas que quelque chose qu'on visite lorsque l'arrière-grand-mère est décédée, mais que c'est quelque chose qui doit nous parler et qui doit continuer à nous parler comme un lieu mémoriel permanent. Voilà, c'est ce que nous avons fait ensemble, et c'est aussi un dialogue avec la jeunesse.
Christian Bruguin, vous vouliez ajouter avant de retrouver
Monseigneur? Écoutez, moi je suis là pour parler aussi un peu du département, mais je trouve ces échanges extrêmement intéressants. On parle, Monseigneur, de nourriture spirituelle, on parle de nourriture de l'esprit aussi, avec ce que vient d'évoquer Serge Barcellini. Bon, nous on est aussi dans la nourriture terrestre, voilà, et faire bonne chair, tant qu'on n'en abuse pas, n'est pas un péché. Et donc on a évidemment la valorisation du Made in Marne, voilà, sur cette foire. Alors ça fait quelques années que ça existe, mais cette année, on va encore faire mieux avec une grande boutique Made in Marne. Alors ce ne sont pas d'ailleurs que des produits alimentaires. On aura aussi des artisans qui vont venir présenter leurs produits. C'est du 8 au 11. C'est juste là, à côté de vous, sur l'esplanade. J'imagine d'ailleurs que vous serez certainement présent avec nous.
Ah, on va essayer.
Le Made in Marne. Alors, et ça aussi, quelque part, c'est aussi pour créer du lien social, pour renforcer cette fierté de nos concitoyens pour le territoire où ils vivent. Avant, on disait le territoire où on a nos racines, mais vous l'avez dit, Monseigneur, on n'est plus comme au XVIIIe siècle, et donc c'est pas le territoire où on a ses racines, c'est le territoire où l'on vit. La fierté du territoire où l'on vit.
Et quand on vit dans un territoire, parfois on se l'accapare, et quand on connaît les personnes, et c'est vous dans un diocèse, quand vous arrivez dans un diocèse, ou même si un jour vous changez de diocèse, Monseigneur Touvet, votre nouveau territoire, ça sera un territoire qui sera le vôtre.
Bah écoutez, c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, moi je me suis attaché à la Marne. Ça fait 7 ans et demi que je suis évêque de Châlons. Et j'ai découvert, pour revenir aux deux sujets précédents, qu'effectivement, non seulement ce département est en quelque sorte un cimetière à ciel ouvert, dont la terre a été baignée du sang de tous nos jeunes soldats. Et donc c'est pour moi une source de fécondité. Et quand je vois l'amour que mettent les cultivateurs et les viticulteurs à travailler la terre ici, dans la Marne, eh bien je me dis que c'est un peu le même défi. Il s'agit de faire produire du fruit à cette terre de la Marne que nous aimons, à laquelle nous sommes attachés. Moi, je suis bourguignon d'origine, mais après le vin de Bourgogne, je me suis fait au champagne. Mais en tout cas, c'est une belle terre.
Vous préférez lequel, Monseigneur ?
Non, je ne dirai pas. Mais je ne vais pas me mettre à chanter « Joyeux enfants de la Bourgogne » parce que ça ferait un petit peu... Vous voyez, c'est ça, je crois. C'est une belle image à retenir, que la terre porte du fruit, d'une façon ou d'une autre, chacun à notre place. C'est les familles, c'est aussi nos écoles, nos lieux d'enseignement, c'est toutes les entreprises, ce sont les exploitations agricoles, viticoles. Je crois qu'il y a beaucoup à faire encore, à développer ensemble, pour, dans un esprit d'encouragement, de soutien mutuel, pour développer ce pays, son image, et en faire une terre encore plus belle et accueillante.
On se retrouve dans un instant, Monseigneur, mais je crois qu'il va falloir libérer Serge Barcellini. Alors, faites-nous une promesse. Si je me permets de vous appeler Serge Barcellini, contrôleur général des armées. On connaît Philippe Louge, on connaît Jean Vigouroux, on connaît aussi les responsables comme M. Delaporte, je crois, donc le département de la Marne. Venez plus longtemps dans notre studio, à Châlons d'ailleurs, à Châlons ou à Reims, pour faire une émission un petit peu plus longue, et avec vous, on pourra parler du souvenir français, pour parler du souvenir, mais en parlant du souvenir, à parler de l'avenir.
Merci
Serge Barcellini d'avoir été avec nous. On continue bien sûr cette émission en direct de la foire de Châlons. Christian Bruyen.
Monseigneur, 7 ans et demi, vous vous êtes attaché au département de la Marne, à votre diocèse dans la Marne. Je peux vous dire que nous nous sommes attachés à vous.
Je vous remercie. Pourvu que ça dure, alors. À la grâce de Dieu.
Oui. Alors, Christian Bruyen, on continue quelques minutes parce que je crois que vous avez des engagements. Vous allez être encore demain, après-demain, sur cette foire. C'est vrai que je suis arrivé ce matin et je suis arrivé au moment où les gens s'installaient. Tout le monde m'a tutoyé alors que je connaissais personne. On me prenait parce que j'avais un truc prestataire. J'étais devenu comme un exposant. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une communion entre une forme de famille de la foire. Ils me disent « Tu veux un café ?» Moi, je ne connaissais même pas la personne. « Mais tiens, un croissant là-bas. » J'en revenais pas, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais c'est cette ambiance très singulière. Et cette foire de Châlons, elle n'est pas simplement la première après le salon de l'agriculture à Paris. Elle n'est pas la première sur le plan quantitatif, quantité de visiteurs. Elle est la première en termes de relations humaines. Voilà. C'est un moment exceptionnel. Et puis, quels que soient les exposants dans leur... particularité, dans leur singularité, où il y a des échanges qui se font. Et je pense que c'est ça aussi que viennent chercher les visiteurs. Voilà.
Et on accueille ici beaucoup d'urbains, beaucoup de Rémois, beaucoup de gens qui viennent, comme on dit, de la ville. Mais vous n'avez jamais opposé, Christian Bruyen, la campagne et la ville. Chalon et Reims et les territoires ruraux.
Ah non, voilà, vous avez raison, le département, c'est la collectivité de l'équilibre. L'équilibre, chacun a besoin de l'autre. Je pense que les territoires urbains ont besoin de ces territoires ruraux pour se ressourcer, pour un cadre de vie agréable. Mais il ne faut pas s'en cacher, les ruraux ont aussi besoin de ces équipements structurants qui servent toute la population et qui sont implantés dans les villes. Et c'est pour ça que le département, il aide à la fois les communes et les villes. Et puis c'est pour ça aussi que nous avons un maillage de collèges pour nos collégiens, nos collégiennes sur tout le territoire et que l'on tient à garder ce maillage, même si on a des établissements qui sont pas toujours totalement remplis. Il faut ce maillage sur tout le territoire. On y est très attaché. 28 000 collégiens pour la rentrée, 21 000 dans des établissements dits publics, 7 000 dans des établissements dits privés. Nous ne faisons pas de différence au niveau des investissements. Nous accompagnons les deux. En termes de fonctionnement, nous accompagnons également parce que on a besoin de tous ces établissements pour faire en sorte que on puisse proposer des conditions d'épanouissement, d'éveil, d'apprentissage à notre jeunesse qui soient optimisées. Donc vraiment, c'est important, cette dualité publique-privée au niveau de nos collèges.
Merci Christian Bruyen, président du conseil départemental de la Marne, d'avoir fait escale dans notre studio mobile de l'église catholique dans le diocèse de Chalon, avec Mgr François Trouvet qui nous accompagne. Et à très bientôt sur RCF, Christian Bruyen.
Avec grand plaisir sur RCF, et je salue l'ensemble de vos auditeurs avec beaucoup d'amitié, si je peux me permettre.
Oui, parce que là, cette émission, elle est à la fois sur Chalon, le sud du département, mais aussi Reims, les Ardennes, et puis en DAB+, sur toute la région. Voilà.
C'est cette ouverture qui me plaît beaucoup, cette ouverture qui constitue une vraie belle respiration.
Merci Christian Bruyen, bonne route, bonne suite de foire, et on aura l'occasion bien sûr de vous retrouver. Alors, Mgr Trouvet, avant de retrouver d'autres invités qui vont nous être présentés par Alexis, Mgr Trouvet, évidemment, on va revenir très rapidement sur les journées mondiales pour la jeunesse. Vous étiez bien sûr à Lisbonne, vous avez accompagné les diocésains. Vous en gardez à la fois un souvenir, parce que c'était il y a 3 semaines, mais aussi une forme de dynamisme avec tous ces jeunes que vous avez rencontrés.
Je crois que tout le monde aura été frappé en suivant l'actualité. Par l'enthousiasme suscité par ces journées mondiales de la jeunesse, il me semble que, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais de fait, une observation réaliste nous montre que seule l'Église catholique aujourd'hui est capable de rassembler 1,5 million de jeunes venus du monde entier pour quelques journées. Alors grâce bien sûr à la ville de Lisbonne, à toute la population du Portugal, aux autorités locales, cet événement a pu se dérouler sans incident. 1,5 million de jeunes sans incident, vivant la fraternité, cherchant à nourrir leur vie pour leurs engagements d'aujourd'hui et leurs engagements futurs. Je crois que ça a été un moment très fort de fraternité, de foi chrétienne aussi, grâce aux enseignements qui sont faits par les évêques dans les différentes églises, mais un grand élan de joie et en même temps d'intériorité. Vous imaginez 1,5 million de jeunes sur un immense terrain et qui sont capables de prier en silence pendant 20 minutes. C'est absolument bouleversant, c'est saisissant. Et je crois que chacun de ceux qui sont rentrés des JMJ est capable de témoigner dans ce sens-là. Et dans un monde avec tellement d'agitation ou de division, eh bien, les JMJistes, comme on les appelle, sont capables de témoigner de cette nourriture fraternelle, cette nourriture spirituelle, et de cette joie qu'il y a à essayer de construire un monde vraiment plus beau. Et Dieu, je crois, y a toute sa place. L'Évangile y a toute sa place comme une lumière qui éclaire la route de chacun.
Alors évidemment, ces JMJ peuvent donner peut-être un peu d'espoir, un petit peu de dynamisme. Pour l'année qui s'ouvre, il va y avoir des chemins qui vont s'ouvrir. Vous allez prendre des initiatives, même si, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans une autre partie, il y a eu des changements à la communication et dans d'autres domaines, dans votre entourage qu'on appelle la curie, etc. Mais pour l'avenir, pour cette rentrée, Mgr, vous avez des espaces qui s'ouvrent, des projets qui se mettent en place?
Ben, je reviens un petit peu sur les JMJ. Il me semble que ça a été la démonstration, quoi qu'on en dise, l'Église, elle est ringarde, l'Église, elle est morte, ça n'attire plus les jeunes, il n'y a plus rien, etc. La démonstration du contraire. Et moi, je voudrais en quelque sorte surfer, si je peux me permettre, sur cette vague d'enthousiasme et de jeunesse pour vivre un renouveau. Et mon appel, en ce temps de rentrée, c'est un appel à se lever. Là, on est bien assis dans notre studio mobile, mais un appel à se lever, c'est-à-dire à accepter de sortir de notre petit confort, de notre petite installation, pour s'engager au service des autres, au service de la société, dans des actions de fraternité ou de solidarité, dans des actions d'annonce de l'Évangile, dans des actions d'éducation, des projets d'entraide, etc., dans l'animation des communautés chrétiennes. Moi, je fais appel à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui nous entendent, et au-delà de mes cercles habituels et plus resserrés, je lance un appel. Si vous aimez la vie, si vous avez le goût de transmettre ce goût de la vie, cette joie de la fraternité, eh bien, levez-vous, engagez-vous, et nous sommes là, et moi, je serai heureux d'accueillir et de coordonner tout cet élan justement au service de la société, au service du bien commun.
Vous restez avec nous, bien sûr, Mgr Touvet, jusqu'à 19h. Alexis, vous avez d'autres invités. Je crois qu'on va évoquer un peu le tourisme, si je ne me trompe.
Et effectivement, Jean-Pierre, on va évoquer le tourisme. Plus qu'avec nous, nous sommes avec Thomas Samine, qui est le président de l'Office de tourisme Destination Sud-Ardennes. Thomas Samine, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors j'allais dire, le tourisme, ça se passe dans toute la Champagne-Ardenne, ça se passe dans la destination Sud-Ardenne, mais on est aussi présent à la foire de Chalon pour peut-être aller montrer que les Ardennes vertes, eh bien, pourquoi pas venir les visiter quand on n'est pas loin ?
C'est exactement ça, on est juste à côté, on est aux portes de Paris, on est aux portes de la Marne et on a des vraies complémentarités. Le Sud-Ardenne a beaucoup de pépites à faire valoir et puis... Aujourd'hui, c'était aussi la journée de l'Argonne sur la foire de Chalon. Et comme la destination Sud-Ardenne rayonne à la fois sur le pays rotellois et sur l'Argonne ardennaise, il était évident qu'on se devait d'être présent aujourd'hui avec nos collègues de l'Argonne meusienne et marnaise.
On vous retrouve dans quelques instants pour en parler davantage. Vous êtes presque en famille sur ce plateau, puisqu'à côté, nous sommes avec Louis-Joseph Samine. Bonjour Louis-Joseph.
Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous.
Avec notamment la société Agricyclage. Alors Agricyclage, on est plus sur un sujet de méthanisation, c'est dans l'air du temps pour les agriculteurs.
On est surtout sur un sujet territorial, un sujet d'avenir, où en fait, voilà, on est 6 agriculteurs à s'être réunis autour d'une méthanisation d'abord, mais autour d'un enjeu commun, les déchets alimentaires. Voilà, l'idée, c'est d'aller collecter ces déchets perdus, ces déchets enfouis ou incinérés pour en faire, en fait, d'abord de l'énergie, c'est-à-dire le gaz, capter le gaz à effet de serre, et puis de l'engrais pour nos champs.
Alors, je me rappelle, il y a un an, on se rencontrait pour la première fois sur cette foire de Chalon en Champagne. Un an après, si on fait le bilan, Louis-Joseph, où en est-on avec Agricyclage ?
Ben alors, d'abord du travail. Beaucoup de travail. Voilà, hein, je pense que mon associé... de l'Office de tourisme rigole, mais est d'accord avec moi.
Non, simplement... Il a toutes les casquettes, Thomas, ce soir.
Tout à fait,
c'est
voilà.
C'est un bob.
Donc, oui, tout à fait. Où on en est ? On en est donc à 8 mois d'activité. On en est à 120 clients collectés, établissements scolaires, et le fait que établissements scolaires, grandes surfaces, agro-industriels, en fait, voilà, tout déchet du territoire, on apporte une solution avec... des contenants adaptés, de la collecte et du traitement, de la valorisation par notre méthaniseur et surtout ce retour au sol qui est très important pour nous, hein, étant donné qu'on est l'utilisateur final. Effectivement, on apporte une solution vraiment sécurisée, une solution de qualité aux producteurs de déchets.
Mais pour l'auditeur de RCF qui se sent peut-être un petit peu déconnecté de tout ça, finalement, concrètement, pour lui, comment il peut être visé par ce que vous proposez au quotidien ?
Alors, tout le monde est concerné, parce que d'après l'ADEME, c'est 35% de nos poubelles. Donc 35% de nos poubelles sont des déchets alimentaires qui sont perdus, qui sont incinérés. Et en fait, on peut en faire des choses assez sympas, dans le sens où nous, on chauffe 9600 personnes grâce au gaz à effet de serre qui s'échappe de la matière, qu'on le veuille ou non. En fait, il y a du gaz à effet de serre qui s'échappe de nos matières organiques et nous, notre boulot, c'est de le piéger, de le bloquer et c'est du gaz de ville ou alors on en fait de la mobilité via le bio-GNV. Voilà. Et l'autre volet assez sympa, c'est que ça nous permet d'apporter de l'engrais naturel à nos champs sur 1200 hectares et c'est quand même pas rien, qui permet de refaire pousser du blé, qui permet de faire des baguettes de pain pour renourrir les hommes. Voilà.
Et là, cette action, elle est aussi organisée, j'allais dire, dans le sud Ardennes ?
Bien sûr, aujourd'hui, on rayonne à 2 heures de chez nous avec des camions. L'idée, c'est pas d'aller chercher des déchets trop loin, mais par contre, d'apporter une solution globale au territoire. Alors, d'une part, sur les déchets alimentaires, mais il y a également d'autres, il y a une deuxième filière qui s'est ouverte sur l'agricyclage, hein, suite à la demande des collectivités et des privés, c'est la filière des déchets verts, c'est-à-dire le bois, la pelouse, les feuilles. Et c'est Thomas, à côté de moi, qui s'occupe de cette filière. Voilà, on est...
Alors Thomas, peut-être un petit mot sur cette filière avant de retrouver avec votre casquette de président de Destination Sud-Ardenne. Mais c'est vrai que c'est passionnant cette ouverture là sur les déchets verts.
Oui, je vais prendre la casquette agricyclage compost, mais... En fait, le constat, c'est on est l'utilisateur final et nous, ce qui nous fait vivre, ce qui nous anime, c'est la vie de nos sols. Et pour que notre sol vive bien, il a besoin d'engrais, mais il a aussi besoin d'organismes, de compost. Le compost, c'est pourquoi c'est le carbone, en fin de compte. Et quand on amène du digesta, quand on amène les matières organiques, on amène toute la matière, l'azote, le phosphore, le potassium. Et le compost est un super support pour faire vivre et nourrir notre sol. Donc on a développé cette activité-là qui a démarré depuis le mois de juin. On va être sur une moyenne à 7000 tonnes par an dès la première année de déchets verts. Et le but, c'est d'être vraiment l'acteur incontournable sur les deux piliers qui sont les biodéchets et les déchets verts, de tout ce qui va être matière organique dans notre rayon d'action, donc comme l'a dit Louis-Joseph, à 2 heures de chez nous, où on est l'interlocuteur vraiment privilégié, où on a un rôle à la fois de collecte de traitement, mais on a aussi un rôle de conseil qu'on essaye d'amener quand on va dans des écoles, on sensibilise au tri les enfants, au compost, etc., à comment retourner au sol pour produire et avoir un cercle vertueux. Louis-Joseph parlait du GNV. Demain, on va arriver à faire le ramassage scolaire des Ardennes via la RDTA, la régie départementale, qui roulera au gaz produit avec les déchets verts que Louis-Joseph aura collectés.
Thomas Samine, Louis-Joseph Samine, vous restez avec nous. En invité fil rouge, nous sommes avec Mgr François Touvet, évêque de Châlons. Finalement, on rejoint la démarche écologique de l'Église et presque le label Église verte, j'allais dire, Mgr François Touvet.
Alors, Église verte est ce que l'Église a défini comme l'écologie intégrale. Moi, je suis très sensible à ce que je viens d'entendre et très touché par ce témoignage. Et je voudrais vous dire tous mes encouragements parce que, effectivement, la démarche de l'Église, c'est de prôner dans son enseignement non seulement, bien sûr, tout ce qui va toucher à la terre, à la culture de la terre, au respect de l'environnement, du cadre de vie, de la création, que le pape François appelle notre maison commune, mais aussi tout ce qui touche à la personne humaine. Et on voit bien l'articulation entre les deux dimensions dans votre projet. Moi, j'avais eu la joie de visiter une usine de méthanisation près de Vertu il y a quelques semaines, et j'ai compris ce cycle, à partir des biodéchets ou des déchets verts, de voir comment on contribue non seulement au chauffage avec la production de gaz, mais aussi à nourrir la terre pour cultiver la saison suivante. Donc cela me paraît fort intéressant. On est là au cœur de tous ces projets d'aujourd'hui qui émergent, la réflexion de nos contemporains pour non seulement améliorer le cadre de vie, en tout cas ne pas le détériorer, et faciliter la vie sociale et l'harmonie, le cadre de vie des personnes et des familles, et qu'on soit moins dans l'urgence, dans l'angoisse. Et ça apporte de la paix aussi, ça apporte de la fraternité.
On reprend l'expression de tout est lié, il y a les êtres vivants, l'homme, etc., mais il y a aussi la nature, la création, et tout ça, ils sont quand même liés ensemble.
Alors, donner du sens, chez nous, c'est une de nos valeurs très importantes, qui est portée par tous. Donc Thomas en a parlé avec l'éducation des enfants à l'école, où il y a des belles tables de tri mises depuis environ 5 ans dans tous les établissements scolaires. Et aujourd'hui, elles partent aux ordures ménagères. C'est-à-dire qu'on demande aux enfants de trier d'un côté le pain, les ordures ménagères, les déchets perdus et les déchets alimentaires. Sauf qu'il n'y avait pas de filière. Et c'est vraiment ce constat agricyclage de dire « mais il faut faire quelque chose ». Et qui de mieux que l'agriculteur pour faire ça ? Donner du sens à ce geste de tri. Donc, je pense à une vidéo qu'on vient d'éditer avec GRDF pour justement mettre en lumière ce côté... pédagogique ou d'un déchet perdu qui était enfoui ou incinéré où il y avait quelque part un vrai problème. C'est-à-dire qu'on consommait de l'énergie pour produire du blé, on consommait de l'énergie pour en faire du pain, et ce pain n'était pas consommé, du coup on consommait de l'énergie pour le détruire. Et on s'est dit, mais là, nous en tant qu'agriculteurs, faut qu'on fasse quelque chose. Et Agricyclage est vraiment né de ça. C'est-à-dire que maintenant, dans les établissements scolaires, on a embauché un animateur territorial biodéchets qui a pour rôle d'expliquer aux enfants que quand on consomme, il faut faire attention. Et si on gâche, c'est grave. Donc il faut pas jeter ça en se disant c'est pas grave, j'en rachèterai une demain. Donc maintenant on collecte ces déchets alimentaires. On les trie parce que ça finit dans nos champs, donc c'est hyper important de trier ça proprement. On les valorise via notre méthaniseur. On chauffe quand même 9600 personnes grâce à l'énergie qui s'en échappe, qui est un gaz à effet de serre. Et on fertilise 1200 hectares grâce à cette baguette de pain qui permet d'en faire produire d'autres. Et ça, ça donne beaucoup de sens.
Voilà. Louis-Joseph Samine, puisqu'on fait le bilan à peu près une fois par an, si on se donne rendez-vous l'année prochaine, quels vont être les objectifs dans les 12 prochains mois?
L'embauche.
Parce que là, vous êtes les 6 cofondateurs associés.
Alors, on est 6 associés avec des filières bien déterminées où Thomas Samine, ici présent, s'occupe de la partie déchets verts. Moi-même, je m'occupe de la partie déchets alimentaires, biodéchets. Mais on n'est pas 2, on est 6 dans le groupe où on a des associés qui s'occupent de l'épandage de cet engrais. On a des associés qui s'occupent de faire tourner le site, qui tourne, c'est une usine, ça tourne H24. Voilà, on est tout un groupe de 6 où on va chercher également de l'embauche à l'extérieur, des talents qu'on n'a pas forcément sur de la maintenance, sur de la collecte, sur de l'animation scolaire, sur de l'animation de restauration. Voilà, c'est un groupe aujourd'hui qui est d'une quinzaine de personnes et qui embauche au minimum 5 personnes par an sur les 5 prochaines années. Voilà.
Bon, en tout cas, Louis-Joseph Samine, on aura le plaisir de vous retrouver peut-être quand même avant l'année prochaine. À très bientôt, Louis-Joseph Samine. Vous êtes accompagné de votre cousin Thomas Samine qui a une autre casquette. Il a dit « Je suis venu avec le Bob aujourd'hui, tellement il en a ». Thomas Samine, vous êtes président de l'Office de tourisme Destination Sud-Ardennes. On s'était vu il y a quelques temps pour faire le bilan de la période estivale sur la partie Argonne et Rethelois. Vous nous avez dit, on a encore quelques réunions à faire, on a besoin de prendre un petit peu de recul. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire si l'été a été réussi du côté du Sud-Ardennes ?
Alors, j'ai pas les chiffres exacts. Par contre, si l'été a été réussi, oui, il l'a été. Il a été avec différents points d'orgue qui ont vraiment marqué, jalonné cet été, dont l'inauguration de la voie verte Sud-Ardennes, qui est aujourd'hui un outil formidable au service du tourisme.
Jean-Pierre la connaît bien, il la pratique souvent à vélo.
Bien sûr, bien sûr.
Elle est vraiment agréable à vélo pour l'avoir fait à de nombreuses reprises. Je ne suis pas sûr de vous avoir croisé, Jean-Pierre, mais...
Oh, mais c'est parce que vous ne passez pas au même moment.
C'est ça. Mais en attendant, c'est un outil que les collectivités ont mis à disposition des acteurs touristiques, à destination des touristes et des locaux. On en parlait avec Louis-Joseph qui l'a découverte il y a quelques semaines avec ses enfants. C'est un lieu de vie, un lieu de passage. On est au port de la Marne. Aujourd'hui, vous venez de Rethel, de Reims, pardon, à 30 minutes en train. Vous pouvez prendre votre vélo et vous avez 120 km devant vous, deux voies vertes, le long du canal, le long de l'Aisne, avec des massifs forestiers sympas, avec de la nature. Et on a surtout beaucoup de gens du territoire. En fait, ça a fédéré les gens. Et on a un nombre de porteurs de projets assez impressionnants qui développent de la restauration, de l'hébergement, de la location de trottinettes, de vélos. Et on a vraiment un dynamisme qui s'opère. Et des gens qui travaillaient en silo, qui ne se parlaient pas, et bien qui, autour d'un projet commun, se mettent autour de la table. Et on le vit parce qu'à l'Office de tourisme, on a créé ce qu'on appelle un comité des acteurs du tourisme où on a les hébergeurs, les restaurateurs, mais on l'a aussi ouvert aux membres des associations qui font vivre nos territoires, parce que ce qui fait vivre nos territoires, les poumons, c'est les associations. Si j'en cite une pour le Sud-Ardennes qui aura lieu ce week-end, c'est la fête des enfants à Nanteuil-sur-Aisne qui est un événement aujourd'hui qui a une certaine renommée où on a quelques milliers de personnes qui viennent et aller le long de cette voie verte. Et en fait, tout au long, maintenant, la commune de Nanteuil va avoir des animations tout au long de l'année pour faire appel à leur animation du mois de septembre.
Juste un mot, Thomas Samine, avant de se quitter pour aujourd'hui, mais on vous retrouvera sur l'antenne de RCF. Cette marque Destination Sud-Ardennes, elle existe depuis 18 mois. Force est de constater qu'elle est porteuse.
Elle est porteuse et on a un vrai écho aujourd'hui, à la fois des touristes et même des locaux. C'est un nom qu'on a... On a incité la population à s'impliquer dans le choix du nom et on sent qu'il y a une appropriation qui s'opère, une identification. Les gens se retrouvent autour de cette envie de construire ensemble une belle destination dans le Sud-Ardennes.
Merci à tous les deux. Alors, le lien de parenté, finalement, j'ai cru comprendre quand même que vous étiez assez liés. Alors, vous êtes...
on est cousins issus de Germain. Ah, voilà, nos grands-pères étaient frères.
Ah, voilà, mais on a encore une fois pas mal de connexions. On est agriculteurs tous les deux dans deux villages voisins. On a eu la bonne idée de mutualiser nos exploitations, au moins sur la partie matérielle, pour gagner du temps. Après, voilà, on a des valeurs communes qui nous ont fait, avec d'autres, partir dans la méthanisation, puis dans l'agricyclage. Donc effectivement, on est assez souvent ensemble. Hélas, parfois. Alors,
merci. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, sachez que c'est vrai que sur la voie verte du côté du sud Ardennes, vous ne me voyez pas, mais moi, je prends plutôt la voie nord, c'est-à-dire depuis Charleville-Mézières jusqu'à éventuellement Sedan ou vers Nouzonville, Bonny.
Mais du coup, bientôt le raccordement avec la sud et vous pourrez faire la boucle et reprendre le train à Rethel, ce qui permettra de faire un tour complet des Ardennes.
Mais 120 km, c'est là le problème quand même, monsieur Samar.
Même moi, je l'ai fait.
Oui, bah oui, je devrais le faire aussi. Monseigneur Touvet, vous seriez peut-être de la partie, faire une petite promenade en vélo.
Oh oui, pourquoi pas, oui. Si c'est plat le long du canal ou de la rivière, oui,
vous êtes un sportif, monseigneur.
On a une très belle chapelle au niveau d'Amblifleury, entre Amblifleury et Seuil, le long de cette voie verte qui est somptueuse et qui est en accès libre tout au long de cette voie verte est très belle.
Merci. Merci en tout cas. Monseigneur, on reprend avec vous ce qu'on disait à propos de la rentrée, à propos des perspectives. On peut citer d'autres initiatives qui vont être prises, des choses qui vont un peu bouger, des rassemblements, des rencontres, des pèlerinages.
Je voudrais commencer en réagissant à tout ce qu'on vient d'entendre pour saluer vraiment ce projet qui se construit et se développe. Vous savez, le pape va publier dans quelques jours, dans un mois, une suite à l'encyclique Laudato aussi. Il l'a annoncé. Et donc, il me semble que c'est une invitation peut-être à reprendre ce texte, l'encyclique Laudato si, il y a quelques années, celui qui sera publié le 4 octobre, qui nous invite justement à réfléchir et à nous engager les uns les autres dans tout ce travail, puisque tout est lié au service de la création, mais aussi au service de la personne humaine. Alors, le diocèse de Chalon, ben, on continue de s'engager, si vous voulez. On est en train d'aménager des lieux d'hébergement pour des migrants. On est engagé dans le soutien des projets éducatifs dans nos établissements d'enseignement catholique. Dans le diocèse de Chalon, cela représente 6000 élèves. Et donc, je suis vraiment attaché à soutenir des projets qui se développent et qui permettent aux jeunes de s'épanouir et de construire leur personnalité dans toutes les dimensions de leur être. Pas simplement d'apprendre les mathématiques, la grammaire, la géographie, mais aussi à vivre ensemble et aussi à s'ouvrir à la présence de Dieu, puisque ça fait partie de notre projet pastoral dans tous nos établissements d'enseignement catholique. En tout cas, je le rappelle souvent. Donc, vous voyez, nous sommes engagés un peu sur tous les fronts parce que l'Église s'intéresse à tout ce qui fait la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui et des jeunes. Donc, il n'y a pas que être dans une église à célébrer la messe, mais c'est aussi participer, contribuer à la vie de la société, à l'animation de la société. Je parlais des actions de solidarité, je parlais des actions d'éducation. Alors moi, j'essaye aussi de développer des projets à caractère plus missionnaire directement. Par exemple, je lance un appel. Je l'ai déjà fait l'année dernière. 7 personnes s'étaient présentées et nous avons pu développer quelques missions ponctuelles dans des écoles catholiques ou dans une paroisse. Mais je lance un appel. Je cherche des volontaires pour la mission. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, je lance un appel à tous les baptisés catholiques qui s'intéressent à cette dynamique missionnaire que le pape François nous encourage à vivre. Et ils s'engagent, ils disent ben, « écoutez, moi pendant un an, je veux bien, je vais me rendre un peu disponible. Quand il y aura un besoin, quand il y aura une mission à l'école de tel ou tel canton, quand il y aura une mission dans telle ou telle paroisse, eh bien, je tâcherai de me rendre disponible un jour ou deux ou trois jours et j'irai avec l'évêque. Alors, ça peut être des prêtres, ça peut être des diacres, ça peut être des laïcs, des couples, des jeunes qui vont vivre ainsi la mission. Il n'y a que en vivant cette dynamique missionnaire, en allant à la rencontre des autres pour leur partager le trésor de notre foi, que l'on goûte. On goûte à l'esprit missionnaire qui était l'esprit des apôtres, parce que l'Église est par nature missionnaire, si vous voulez. Donc on n'est pas là pour faire du prosélytisme, vous voyez, on est là sur la foire de Chalon, on n'accroche pas les gens, on ne va pas les enquiquiner quand ils passent à côté du stand, mais on est là. On est là, et ceux qui s'intéressent à notre stand, on les accueille, on discute, on dialogue, on ne leur impose rien. Donc je crois que c'est vraiment cela, je veux que notre Église diocésaine ne s'endorme pas, sur tout ce qu'on a reçu du passé, mais que nous nous ouvrions sur l'avenir, comme on le disait tout à l'heure, avec le souvenir français, etc. mais en nous engageant, en nous levant, hein, je lance cet appel, levez-vous et engagez-vous, par exemple, comme volontaire pour la mission, faites-vous connaître auprès du diocèse en vous adressant à l'évêché, et on aura l'occasion, à deux reprises ou trois reprises dans les 12 mois qui viennent, d'aller participer à un événement missionnaire, quel qu'il soit. Ça peut être aussi sur le stand de la foire de Chalon.
Donc on a bien noté ce soir, c'est une information qui sera sans doute reprise dans les magazines et dans les informations sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne. Vous lancez un appel, vous le faites en direct ici sur la foire de Chalon, tout un symbole d'ouverture en disant tout le monde peut venir. Si vous êtes intéressé pour être, entre guillemets, missionnaire ou aider ou donner de votre personne, il faut joindre l'évêché de Chalon, voilà. Dont on trouve le numéro facilement.
Oui.
Et on dit voilà, je suis disponible.
Voilà.
Et on constitue. Il n'y a pas de condition d'âge.
Non.
De,
non.
De,
et on constitue ensemble une équipe. On essaye de vivre la vie chrétienne ensemble pendant quelques jours, de façon à aller partager ce trésor qui habite nos cœurs. Et l'engagement, je propose qu'il soit pris lors de la fête de Saint-Mémy, le premier évêque du diocèse. C'est donc le 21 et le 22 octobre prochain.
21-22 octobre prochain, vous avez 7 semaines à peu près pour répondre à cet appel. Soyez nombreux, on aimerait bien qu'RCF ait des résultats concrets sur un appel comme celui-là, en disant c'est par RCF, on l'a entendu. Eh ben voilà, venez, et vous verrez toute cette joie dont parle Mgr Touvet, donc qu'il a évoqué avec les JMJ, elle existe encore. Il ne faut pas baisser les bras, en quelque
sorte.
Non, bien
sûr que non. Je ne partage pas le défaitisme d'aujourd'hui quant à la place de l'Église, à son rôle dans la société. Je crois au contraire que nous sommes, d'une façon très originale, porteurs d'un message qui nourrit l'humanité. Et les JMJ ont montré que c'était, il y avait une soif vraie chez les jeunes. Moi, j'ai vu cette jeune génération qui arrive, qui est là. La génération des jeunes chrétiens catholiques, je vous assure qu'il y a de l'énergie.
Il y a du feu,
il y a du feu. Eh bien, moi, je m'appuie sur eux. Je voudrais vraiment les associer à ma mission d'évêque pour l'annonce de l'Évangile. Et je compte sur eux. Donc, je lance cet appel. Rise up, levez-vous et on y va pour la mission.
On aura l'occasion de vous retrouver, Monseigneur, depuis la foire de Chalon. On remercie, bien sûr, Jawed Saoudik, toute l'équipe technique de RCF Cœur de Champagne, Christopher Fausten.
Avec Alissa, avec Antoine, avec Anatole également qui sont présents.
Et bien sûr avec vous, Alexis Claudrette. Merci infiniment, Monseigneur.
Merci.
Alors, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer un direct assez prochainement avec vous.
Dès que vous voulez.
Peut-être dans un terrain, d'ailleurs, on pourrait se bouger aussi. Hein, et puis,
évidemment,
vous pouvez aller. Dans un endroit un peu différent.
Comme vous voulez.
On peut se faire en studio, bien sûr, mais on peut le faire aussi ailleurs. Merci infiniment, Monseigneur,
d'avoir
été avec
merci
nous.
Et dans quelques secondes, sur Foire en scène, c'est Jennifer qui est sur la scène ce soir.
Voilà, c'est la musique. Et puis, dans quelques secondes, c'est le journal national de RCF.